Je reprends ce qu'on avait fait en mois de mai. Pour ceux qui étaient là et ceux qui sont nouveaux, l'Opéra Garnier, que vous connaissez, le palais de Garnier, est fondamental dans l'histoire de l'art et même de l'histoire politique, artistique du 19e siècle, puisque d'abord il est au cœur de Paris. Il est construit et sa construction va chevaucher, y compris les événements de la Commune de Paris. Et c'est, on pourrait dire, une sorte d'image et de style que les nouvelles classes dirigeantes essayent d'inventer, puisque la grande histoire du 19e siècle, je reviendrai assez souvent, c'est qu'on a justement, on n'est plus dans l'Ancien Régime, il n'y a plus la légitimité de l'aristocratie au pouvoir, et toute cette bourgeoisie, ces parvenus, essayent de se construire une légitimité historique, politique, artistique. Hein, puisque, et parfois avec des ambiguïtés par rapport à la religion, par rapport au nationalisme, y compris par rapport à l'héritage complexe de la Révolution française. Donc, cette espèce de synthèse compliquée pour tenir une société qui tiraille dans tous les sens. Au XIXe siècle, vous avez les révolutions, 89, 19e siècle, 1830, 1848, la Commune de Paris, donc c'est en ébullition permanente, avec des tensions sociales incroyables, des évolutions technologiques hallucinantes. Hein, où, en 1800, vous vivez à Paris comme du temps des Romains, quasiment, des Gallo-Romains. C'est la même technologie. Il y a l'imprimerie en plus, mais c'est quasiment tout. Et à la fin du 19e siècle, il y a le métro, il y a quasiment pas le cinéma, il y a la photo, il y a presque le téléphone, il y a l'électricité, on commence à en parler, les voitures, etc., les trains, la construction métallique, etc., etc. Donc, si vous voulez, on est dans une sorte de bouleversement hallucinant. Parce que ce bouleversement-là se traduit en architecture par l'invention d'un style qu'on appelait l'éclectisme, où justement il y a une sorte de synthèse. Pour petit rappel, j'avais montré, mais c'est un peu vrai, c'est que l'Opéra Garnier de façade fait des citations assez claires à Saint-Pierre de Rome. Hein, se trouve y compris carrément dans l'axe. C'est Napoléon Ier qui avait voulu que ce soit, Napoléon III, qui a voulu que ce soit dans l'axe tout près des Tuileries, que ce soit aussi près du pouvoir. Et il trône aussi dans un Paris renouvelé par Haussmann, hein, donc où tout est percé. Vous avez aussi une réappropriation d'un Paris qui était très populaire, et il s'agit de se réapproprier aussi un Paris qui va devenir le siège du pouvoir. Ça va être compliqué, parce que auparavant c'était Versailles, hein, pendant longtemps, le Louvre a été déserté par les rois et les reines. Pour être à Versailles, loi du peuple, et Paris redevient un enjeu économique et politique où il faut reconquérir Paris, donc ça passe par des grandes avenues, par une réhabilitation des bâtiments, et par y compris des signes majeurs architecturaux, comme par exemple l'Opéra. L'éclectisme, c'est aussi une façon de vouloir faire la synthèse, une sorte de synthèse artistique, entre l'Ancien Régime et les grandes traditions architecturales des palais ou des églises, et puis en même temps quelque chose qui fasse des clins d'œil à la tradition renaissance, gréco-romaine, à la modernité, y compris dans la construction, par exemple avec la construction métallique, etc. Alors aujourd'hui, je vais pas refaire le cours, et on va aborder la question des gares, la question des grands magasins, la question de la Commune de Paris, etc. Et tout cela. Alors, juste pour vous rappeler, je crois maintenant que je maîtrise un peu mieux la machine. Si je fais un diaporama, c'est mieux. Si je fais pause, ça ne défile pas. Là, c'est pour vous, juste quelques... Alors, autre chose qui est intéressant, cette période, c'est la photographie. C'est qu'on commence à avoir des documents très émouvants qui sont, alors on pioche dans les archives et qui commencent à renaître sur le Paris de l'époque. Hein, la photo arrive en 1837, 38, 39 à peu près, cette période-là. Les daguerréotypes, on ne sait pas forcément les tirer en papier, il va falloir inventer le verre, hein, pour pouvoir faire des multiples. Tant que ce sont des daguerréotypes, c'est un seul exemplaire, c'est du métal, puis après quand c'est du verre, ça permet de faire des multiples, donc de se diffuser autour. Mais en tout cas, enregistrer la lumière et la fixer par des moyens chimiques, c'est aussi une révolution technique, technologique, et on voit les rues de Paris, certaines rues de Paris, là vous avez la rue de Bièvre en bas, vous avez des rues qui ont été entièrement recouvertes, hein, la rue des Tanneurs qui sont démolies, vous avez des bouleversements du baron Haussmann justement dans le Paris qui va percer des grandes avenues, plus plusieurs théories là-dessus. Et puis, vous avez encore quelques vieilles rues d'un Paris très populaire, sale, et qui va d'ailleurs subsister encore longtemps. Alors, évidemment, Zola, par exemple, dans la Curée, parle de tout ça. Hein, vous avez Balzac, Zola, par exemple, sont vraiment les grands descripteurs de ces révolutions architecturales. Alors, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est les constructions. Ah, Céline, les constructions des gares. Puisque les gares ramènent évidemment Paris à sa fonction centrale, économique, etc. Mais aussi les gares, ce sont des gares de banlieue aussi déjà. C'est-à-dire qu'il y a l'idée derrière ça aussi, pas que l'idée, c'est aussi de pouvoir, dans deux sens, permettre à certains parisiens d'aller prendre l'air un petit peu dans la verdure, etc., mais permettre aussi à une nouvelle activité type banlieusard, ou des gens qui vont loger de plus en plus loin, de venir travailler à Paris. Donc on voit une double fonction. La question des gares, donc, c'est aussi l'irruption d'une technologie totalement moderne, la vapeur et l'acier et le métal, dans un Paris qui était fait que de pierre et de bois, hein, donc, et de briques. Vous avez aussi cela. Et les premières gares, comme par exemple c'est assez étonnant, Saint-Lazare, 1837-1849, on voit d'ailleurs l'évolution des bâtiments, hein. Au début ça s'appelle d'ailleurs l'embarcadère, hein. C'est même pas une gare, il n'y a pas les mots, il n'y a pas les noms, c'est encore à peu près périphérique, là je crois qu'on voit Montmartre derrière, au loin, etc. Et puis les constructions vont devenir quand même de plus en plus massives. Voilà. La gare Saint-Lazare, c'est aussi l'importance qu'elle a eu, par exemple, pour les impressionnistes, hein, pour pouvoir aller en Normandie, prendre l'air, prendre le verre, parce que Paris est une ville qui sent bourgeoise pas si vite que ça. C'est-à-dire que c'est encore une ville où vous avez un brassage social, évident, mais puisque je dis, les gares, c'est un peu dans les deux sens. Ça fait venir, on va dire, le matin, les banlieusards qui commencent à travailler, et puis comme c'est un peu pollué et fatigant, vous avez aussi certains bourgeois qui vont même. Parfois certains employés qui vont repartir vers la verdure, et on sait que ça aura une importance par la suite. Alors les gares vont s'échelonner toutes dans un court laps de temps, en presque 25 ans, elles sont quasiment toutes construites. L'embarcadère d'Austerlitz et la gare de Lyon, qui n'a pas changé quasiment d'ailleurs depuis. Et ce qui est intéressant, ce que l'on voit très clairement ici, c'est que, si vous voulez, l'architecture des gares, d'abord, elle a la dimension éclectique, je reviendrai un peu en détail là-dessus, mais elle cache l'architecture métallique, qui est sa véritable structure. Puisque, on le verra aussi tout à l'heure, l'architecture métallique n'est pas encore, on va dire, pensée esthétiquement. Elle est encore signe de technologie, elle est faite par des ingénieurs et pas par des architectes, elle désigne souvent des fonctions qui sont tellement modernes qu'on n'en a pas encore une idée, si vous voulez. Donc c'est vraiment quelque chose qui est caché. L'ordre des architectes est extrêmement conservateur. Pour vous donner un détail, j'en reparlerai peut-être plus tard, Le Corbusier avait fait un projet, donc en 1930, et son projet avait été refusé parce qu'il n'était pas fait à l'encre de Chine et à la poudre. Si vous voulez, c'est très conservateur. Et donc, on sait que la Tour Eiffel a été construite par un ingénieur, pas par des architectes, qui étaient considérés comme des prouesses technologiques. Alors, les prouesses technologiques des ingénieurs se font souvent dans les périphéries. Ce sont les usines, les ponts, les halles, les gares, où effectivement ils expérimentent des technologies de construction remarquables. Mais dès que ça arrive en ville, si vous voulez, il faut préserver l'unité architecturale avec une sorte de voile de pierre. Et ce voile de pierre est assez proche esthétiquement, par exemple, de l'Opéra Garnier, justement. Et comme, par exemple, on verra la gare de l'Est. C'est-à-dire que vous avez des rotondes, vous avez des tympans presque grecs, vous avez des arcades, des références quasiment à l'architecture italienne presque florentine, et puis des sculptures, hein, qui vont monumentaliser un petit peu et magnifier ces gares. Alors voilà, donc ça c'est la gare de l'Est, on va voir. Ici, c'est la gare Montparnasse. Alors, elle a peu changé, puis ensuite, elle a été un peu moins réussie de ce point de vue-là, d'un point de vue architectural. Puis vous connaissez tous la photo de la locomotive qui sort de la gare. Alors, la gare du Nord est-elle, on va dire, remarquables dans ce genre. Hein, regardez la grande verrière, la symétrie, les sculptures. Et je vous ai présenté en bas deux cartes postales quasiment de l'époque qui montrent bien, y compris la scénographie hein, qu'on a avec l'Opéra de Paris et avec la Gare du Nord. À gauche, vous avez l'Opéra. À droite, vous avez la Gare du Nord. Parce que les rues et les boulevards haussmanniens sont aussi des mises en scène, hein, des nouveaux bâtiments. Ça permet de construire, de baliser Paris, de le scénographier, de se le réapproprier avec cette idée, effectivement, hein, de chemin, et au sens presque théâtral comme un décor. Alors, cette idée aussi d'accueillir hein, une certaine foule, c'est très clair. Et puis, même au niveau des rythmes plastiques, hein, que ce soit voyez, le tympan et la coupole ici, et vous avez ici un tympan et une grande verrière qui sont adaptés. Et puis les sculptures, etc. Donc on est vraiment dans un registre architectural qui est en train de s'inventer et qui réussit à intégrer la modernité et aussi à faire tous ces clins d'œil à la tradition, hein, comme par exemple avec l'Opéra. Alors, la gare d'Orléans, c'est un peu particulier, puisque la gare d'Orléans, elle est plus récente, hein, elle date de 1898, et la gare d'Orléans est beaucoup plus presque luxueuse, c'est plus tard, donc si vous voulez, elle n'est pas dans les zones un peu périphériques du centre parisien, au centre de Paris quasiment, presque la seule. Gare de l'Est, gare du Nord, gare de Lyon et gare Montparnasse, c'était pas dans le centre historique de Paris. Alors, celle-ci l'était, mais la gare d'Orléans, on va dire, elle est moins liée au quartier populaire aussi, parce qu'on est quand même un peu plus vers le sud-ouest de Paris, et surtout, elle s'appuie sur le bâtiment, le Palais d'Orsay, qui existait sur place et avait été incendié pendant la Commune. Donc vous avez, là encore, une sorte de revanche aussi, un petit peu, sur cette idée, quelque chose d'incendie. On va reprendre presque le rythme et l'architecture précédente pour en faire une gare qui était un peu plus luxueuse, etc., et qui semble effacer un petit peu le souvenir de l'incendie. Donc, et c'était le Quai d'Orsay, et puis c'était aussi le Conseil d'État. Oui. Le Conseil d'État qui avait été incendié en 71 pour la Commune. Il était relativement récent, il était d'un style néoclassique, hein, 1806, napoléonien, etc. Et là, vous avez donc des photos de l'incendie pendant la Commune. Alors, justement, j'aborde cette question, c'est Paris devient une ville tendue, hein, à la fois avec des forces centrifuges et centripètes. Vous avez une tension sociale, des bouleversements économiques, vous avez des enjeux de pouvoir qui, en gros, va dominer, qu'est-ce que va Paris. Et ces forces vives se traduisent de façon très paradoxale. On a vu, voilà, quelques temps, je ne sais plus, l'académisme, la peinture académique qu'on appelle pompière, qui était une sorte de peinture presque de propagande. Parce qu'au XIXe siècle, c'est aussi assez particulier, c'est le premier siècle, si vous voulez, que vous allez avoir une rupture dans la pratique artistique entre une peinture qui va devenir une peinture vraiment du pouvoir, une peinture de propagande, et puis des peintres qui vont s'individualiser, chercher une expression personnelle, et qui seront, on va dire, marginaux. Alors, je reviendrai un petit peu là-dessus, puisque c'est un des enjeux des séances à venir. Alors, autre chose, c'est que vous aviez dans l'Ancien Régime des paradoxes, puisque l'aristocratie s'exprimait par l'art majeur, et les classes populaires, artisans, ouvriers, paysans, manufacturiers, etc., n'avaient pas d'expression artistique, sinon par les chants, les danses, les contes, etc. Ou ça s'exprimait souvent dans l'art religieux, puisque les églises étaient des lieux artistiques populaires auxquels ils pouvaient accéder gratuitement. Ils avaient accès à des œuvres d'art. Hein, ils avaient accès à des œuvres d'art qui étaient parfois anciennes, qui pouvaient être de plus ou moins de qualité, mais tout de même, c'était des lieux artistiques, des lieux vivants. L'art, on va dire, majeur était dans les châteaux, dans les palais, etc. Il n'y avait pas de musée. C'est David qui va, à la Révolution française, qui va instaurer l'idée de musée accessible au peuple, etc. Les ateliers, y compris d'artistes, vont se développer au XIXe siècle. Pendant un certain temps, ils sont accessibles aux femmes, et puis ça sera interdit. Donc, si vous voulez, l'expression populaire, aussi l'expression, elle n'existe pas artistiquement. Elle n'existe pas encore. Donc, elle va s'inventer progressivement, à tâtons, et certains artistes vont se faire l'expression, justement, de ce monde ouvrier, paysan, de banlieue, etc. Mais ce sont souvent des œuvres marginales, peu connues, qu'on ne voit pas dans les salons, qu'il n'y a pas de comment. Alors, un des plus connus, maintenant, c'est par exemple Daumier, qui était aussi caricaturiste, effectivement. Et vous avez ces petites peintures sur bois qui sont typiques, justement, d'un Paris populaire qui persiste. Vous avez effectivement les lingères, les pères et les enfants, le bain dans la Seine que l'on voit au milieu, la femme qui travaille durement. Alors, on est très loin des modèles et des Vénus académiques que l'on voit dans la peinture officielle. Voilà, y compris du point de vue du style. Et c'est en ce sens que Daumier... Daumier est un artiste aussi très intéressant, c'est qu'il est beaucoup plus libre au niveau de sa facture. Hein, puisque justement... Je vais pas trop vite.
Non.
Vous en avez parlé quand on a vu la peinture académique. C'est que ce qui caractérise, si vous voulez, l'idéologie du 19e siècle, l'idéologie dominante du 19e siècle, qui est en train de se découvrir elle-même, parce que c'est un petit peu à tâtons aussi que cette idéologie bourgeoisie et classe dominante s'invente, c'est l'idée de maîtriser, de contrôler tout. Maîtriser les matières premières, c'est le grand enjeu du 19e siècle. Matières premières, maîtriser les flux d'argent, puisque effectivement, les banques, les crédits, etc., les spéculations. Maîtriser les classes populaires, parce qu'il ne s'agit pas qu'elles refassent le coup de 89, ni 1830, elles refont en 48, et elles refont en 71. Il s'agit effectivement d'avoir une sorte de coercition très claire. Il faut maîtriser la nature pour les matières premières, les éléments. La vapeur, par exemple, c'est une domestication de la vapeur. Les carrières, le métal, c'est aussi l'industrie, c'est quelque chose de maîtrisé, de contrôlé. Et puis on va maîtriser aussi ce qui peut être un peu, quand on dit la nature, ça va être la nature sous ses aspects, on va dire, biologiques ou géologiques, mais ça va être aussi sous ses aspects presque culturels. Qu'est-ce qui est associé à la nature? L'univers féminin, l'univers des enfants et les peuples dominés, les peuples sauvages. Qui sont, et aussi, il faut les maîtriser, parce que les femmes font peur, les enfants font peur et les sauvages font peur. Parce qu'ils ne sont pas contrôlables. Vous avez presque partout, enfin je dis ça, c'est le nombre de textes, vous pouvez creuser, vous fouillez, vous trouverez partout, une sorte d'assimilation. Les peuples, entre guillemets, non occidentaux sont des grands enfants, sont des sauvages, des grands enfants. L'enfant, il faut le discipliner, le domestiquer, et les femmes sont trop près de la nature, sont dominées par l'utérus, etc., ou par des fonctions qui sont purement biologiques, et n'ont pas accès à la rationalité. Vous trouvez ça dans une multitude de discours, y compris la Révolution française, chez Rousseau, parfois chez Diderot, etc., et chez d'autres. Donc, si vous voulez, c'est une idée. Et donc, cette espèce de contrôle, il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas que ça déborde. Donc, la peinture académique, c'est une peinture très léchée, très maîtrisée. Les artistes, on va dire, vivants, eux, sont donc, au contraire, l'expression du flou, d'une certaine confusion, de la lumière, d'une apparente imperfection. Ils vont à l'essentiel. Ce sont des choses qui donnent beaucoup moins à voir cette maîtrise. Et là, Daumier, de ce point de vue-là, est un des artistes les plus modernes de son temps, parce que là, c'est dans les années 1840. Hein. Il est mineur, il n'est pas considéré comme un peintre, il est surtout caricaturiste. Il s'est payé. C'est juste une chose. Daumier peut être extrêmement précis dans son trait de caricature, mais dans la peinture, il va laisser un trait, une pâte très floue, une lumière très délibérément un peu confuse, des grandes masses, des jeux d'ombre et de lumière, des contrastes forts, presque des silhouettes à contre-jour, ce qui est considéré comme le comble de la laideur et de l'incompétence par les artistes pompiers. Hein, y compris le côté inachevé. Le côté inachevé qu'on voit dans les silhouettes qui sont derrière, et la toile qui est non peinte. Alors, il peut se permettre ça aussi parce qu'il est marginal. Et on verra aussi, c'est pour ça que souvent ce sont les artistes marginaux qui vont être les plus inventifs, parce qu'ils n'ont pas de commandes, personne n'achète leur truc, donc ils s'en fichent un peu, ils font ce qu'ils veulent. Si vous voulez, vous avez aussi l'invention et la modernité, et bien rarement des institutions. Alors d'ailleurs, Daumier, assez clairement, se penche et toutes les sympathies du côté d'un peuple parisien. On voit avec le wagon de troisième classe et la barricade, ou les meutres, hein, qui sont deux peintures très clairement où il y avait des visages populaires, hein, dans des situations, y compris de marginalisation, des situations au contraire de révolte, ce n'est pas un peuple soumis. Néanmoins, Jusson vient dans l'autre, c'est aussi un peuple qui a son pargami, qui connaît les lieux, qui va profiter même de la scène, qui va profiter, y compris de la lumière, au moment où tous les jeunes, les beaux gosses sont rangés chez eux dans les beaux bâtiments comme l'opéra, et bien, vous avez une sorte de Paris nocturne, Paris populaire. Donc, il y a aussi une poésie, hein, ce clair de lune assez remarquable, hein, que l'on voit ici. Alors, et l'autre figure caricaturale de Daumier, par exemple, c'est qu'il invente le personnage de Ratapoil. C'est le bourgeois arrogant, matamor, caricature y compris de machisme, avec une moustache un peu à la Napoléon III, le pantalon, qui est une sorte de conquérant un peu grotesque. Alors, ce côté un peu grotesque de parvenu, hein, et on va le retrouver y compris chez sa série de sculptures, sa série de sculptures des députés. Alors, avec des... Ah oui. Chevandrier, le dérangé, le stupide, Philippon, le rire édenté, Apollinaire Narbonne, le malin, Guizot, l'ennuyeux, Cumin, l'homme en colère, le mauvais, Barthes, l'important personnage, Delors, le moqueur, Dupin, l'orateur, et après, je vais vous dire quand même un truc qui est quand même assez dingue, Fruchard, le dégoût personnifié, Fulchiron, Tartuffe, Gallois, l'ironiste, Apollinaire Narbonne, le spirituel et malin, Hilarion, Guératry, l'obséquieux, Lefebvre, l'esprit fin et tranchant, ouais. Prunel le dédaigneux, Viennet le nier, etc. Il en fait d'autres. Alors là, vous avez vraiment effectivement un regard très critique sur le pouvoir. Sur le pouvoir politique, sur le pouvoir masculin, sur l'importance qu'ils se donnent, et leurs costumes, qui sont totalement normés. C'est au XIXe siècle que ce costume aussi exprime le masculin, devient... C'est au XIXe siècle que les costumes se séparent à ce point-là, entre les costumes masculins et les costumes féminins. Jusqu'à la Révolution française, jusqu'à David, les soies, les bas, les décors, les broderies, les perruques, les hommes et les femmes ont un costume qui est relativement proche. Le XIXe siècle s'invente, y compris, une séparation des genres jusque dans l'attitude, le costume et les fonctions, évidemment, du pouvoir de façon très claire. Par contre, un petit détail. Pour avoir, quand j'étais lycéen étudiant, j'étais déjà branché sur Daumier, je ne sais plus dans quel bouquin j'avais vu les sculptures de Daumier. Je lisais Pilote, j'aimais beaucoup la caricature, quand j'ai vu ça, je trouvais ça assez génial. Et j'avais vu tous les surnoms qu'il avait donnés. Je me suis dit, bah, sur Internet, je vais les retrouver. Vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous avez les sculptures, vous n'avez pas les surnoms. Vous allez au musée d'Orsay, j'étais allé au musée d'Orsay, vous avez les sculptures, vous n'avez pas les surnoms. Je cherche, mais avant-hier, je trouve les surnoms. Je cherche, je trouve aucun surnom. Disparu. Mais vraiment, et j'ai fouillé des sites et j'ai fini par trouver un site anglais.
Ils aiment bien
anglais, sur lequel, même encore ce matin, j'ai été hébergé, j'ai retiré tous les surnoms. Parce qu'il y a une sorte d'impertinence des données qui continue. C'est que sur le site de l'Assemblée nationale, ils n'osent pas montrer ça. Et le musée d'Orsay est un musée, je reparlerai peut-être du musée d'Orsay, très ambigu, parce que c'est un musée, vous avez toutes ces œuvres impressionnistes magnifiques, etc., mais qui a réhabilité l'art pompier. C'est le musée de Giscard d'Estaing, sa femme, qui, quelque part, a réhabilité l'art pompier, et qui est un musée très éclectique, y compris dans son style. On voit presque plus le décor que parfois certaines peintures. Ou Courbet est presque mis à contre avec des lumières et des reflets. À côté, vous avez les Romains sous la décadence, hein, qui sont bien mieux présentés quasiment que Manet. C'est un musée très ambigu, même idéologiquement. Enfin, on ne s'en rend pas compte, on est content de voir les peintures. Ouais. Les impressionnistes sont tout en haut, mais en bas, vous avez compris des sculptures kitsch délirantes. Donc, si vous voulez, on est dans une idéologie du 19e siècle, peut-être encore. Maintenant, peut-être encore plus que voilà, il y a deux années. Parce que moi, vous avez vu, c'est sur moi. Hein. Et juste une chose, donc ce site, je l'ai mis en favori parce que c'est le seul site sur Daumier très sérieux sur lequel j'ai trouvé une multitude d'œuvres. Donc si vous voulez, vous voyez que ce sont des enjeux qui naissent au 19e siècle, mais l'idéologie est vraiment présente et elle continue un peu dans cet esprit-là. Il n'y a qu'à voir comment on encense un président. L'esprit saint, étrangement, je ne sais pas. Ou lequel? Le malin.
Le malin. Je trouve que ça lui va bien.
Voilà. Alors, la photographie aussi nous permet maintenant de découvrir des personnages populaires, y compris qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir. Même quand on s'intéressait, par exemple, à la Commune de Paris, on a vu beaucoup de figures. On sait maintenant qu'il y a beaucoup de figures féminines. Là, j'en ai trouvé une, et effectivement, on est dans des modèles très très loin, des bourgeoises peintes par Ingres, ou par tous ces artistes-là, et pourtant, c'est un Paris, donc ce sont des gens qui n'ont pas de représentation. Et la photographie permet d'en témoigner. Alors, elles sont assez extraordinaires, hein, ici, alors ce sont des. Elles étaient avec un costume. Ce sont des communards, donc. Par exemple, alors j'étais tout content. Et moi, j'ai découvert ça, voilà, 4 ans à peu près, que Nathalie Lemel, c'était une brestoise communarde, mais je suis presque un peu fier, mais qui a une figure très importante, qui a une grande importance pour la Commune de Paris, et qui a été totalement oubliée, même à Brest. Ça fait juste 4 ou 5 ans qu'on lui a mis une place et un petit nom de rue. Alors que ce sont des gens et des femmes qui ont été extrêmement investis dans cette révolte populaire et en même temps un peu utopiste, qui a fini dans le sang. Donc on est en plein 1871, c'est le moment où l'Opéra de Paris n'était pas fini, elle était interrompue. Donc si vous voulez, vous avez d'un côté cet opéra tout en brillant, tout en contrôle, tout avec cette idée de faire une sorte de synthèse, et en même temps vous avez un Paris qui craque un peu de tous les côtés, etc. Alors la fameuse Louise Michel, effectivement, hein, qui est une figure qu'on a souvent caricaturée, qui est une femme qui était aussi institutrice, poète. Quand elle a été déportée au Kanaki, en Calédonie, elle est une des rares à ne pas avoir eu des comportements racistes, colonisateurs, parce que beaucoup de communards là-bas se sont comportés en colons. Donc, sur quelqu'un exploité, elle a été lucide sur le sort des Kanaks. Et quand elle est revenue, c'est quand même Victor Hugo qui l'a quasiment aidé à subventionner pour qu'elle continue à vivre, etc. Donc vous avez des figures comme ça, mais qui, là aussi, il n'y a pas de portrait peint, vous n'avez pas de sculpture, ce sont des figures oubliées, et pourtant, alors, la photographie permet effectivement de garder une mémoire. Alors, la place des femmes, justement, elle aussi est oubliée dans la Commune de Paris, très importante, puisque là vous avez ici une femme prêchant dans une église, ici la place blanche, la barricade de la place blanche tenue par des femmes, et là encore des canons, etc. Donc là encore, des choses qui disparaissent. Alors évidemment, il y a aussi la photographie permet de garder toutes ces têtes. On est loin du pourbeau parisien, du petit Titi, etc. Vous avez une enfance, si vous vous souvenez, quand j'ai fait l'académisme, la façon dont l'enfance était représentée toute mignonne, toute soumise, avec des belles coiffures à la Jacques de Sange, en train de prier, et on est bien loin, effectivement, du Gavroche. Là, on est beaucoup plus proche du vrai Gavroche, hein, tel qu'on peut le voir dans ces portraits assez émouvants. Donc ce peuple parisien, lui aussi, quelque part, se bat, vous avez un enjeu, y compris, on va dire, architectural et puis topographique, sur à qui est Paris. À qui est Paris, qui prend Paris. Et donc, la Commune de Paris, au sens strict, d'abord, ça défend Paris contre les troupes prussiennes, puisqu'on peut dire que, justement, la bourgeoisie française a un petit peu abandonné, n'a pas su préserver Paris, se planque à Versailles, et donc, pour simplifier, c'est un peu les Parisiens qui s'auto-organisent au début pour défendre Paris. Hein, donc, si vous voulez, tous les spéculateurs, ces trucs, quittent Paris, vont à l'abri, et laisse Paris quasiment, c'est la famine, etc. Donc vous avez un enjeu, y compris architectural et territorial. Ça s'exprime par les barricades, par certains incendies de bâtiments, justement, comme des bâtiments du pouvoir, que par exemple, justement, le palais d'Orsay, qui va être ensuite transformé en gare, l'hôtel de ville, et par exemple aussi la colonne Vendôme. La colonne Vendôme, et là on voit aussi les canons sur le Montparnasse, sur le Montmartre. Le Montmartre, etc. L'hôtel de ville, certaines rues, donc ça c'est les photos de la commune. Là, vous avez aussi quelque chose qui est assez intéressant sur ces photos, c'est qu'on voit le Paris des faubourgs, Paris des fortifs, etc. Le Paris où il y a déjà quasiment des bâtiments industriels, où il y a des zones non construites. Hein, on est dans un Paris en pleine mutation. Paris central, puis tout ce qui est banlieue, avec des photos des grands ensembles, des grands immeubles, des usines, des cheminées, et puis là, des dégâts, des terravagues, même des bidons, des choses qui sont très modernes, hein, qui sont vraiment intéressantes. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Sur le truc précédent, ça va me revenir, puisque je répète souvent. Alors oui, la colonne Vendôme, que l'on voit ici en train d'être démolie, les Champs-Élysées, etc. Alors la colonne Vendôme, elle était justement, je reviens à l'éclectisme, comme parce que c'était vraiment l'idée d'essayer de réunir sous la figure de Napoléon Ier et un petit peu toute la complexité sociologique, politique et historique du XIXe siècle. Napoléon, d'abord, c'est Napoléon III, son neveu. Mm-hmm. On est sous la période de Napoléon III. Puisqu'effectivement, Napoléon III, l'idée, c'est de rassurer l'aristocratie, qui avait été victime, enfin, qui s'était considérée comme victime de la Révolution française, rassurer l'armée en même temps qu'elle avait toujours un rôle, même si on n'était plus dans les grandes conquêtes. Napoléon III, d'ailleurs, va essayer de faire des conquêtes comme son oncle, mais ça ne marchera pas. Ça permet aussi de rassurer la bourgeoisie un peu moderne, parce que Napoléon avait cette figure quand même de modernité. Donc, si vous avez cette idée que autour de Napoléon, vous essayez, et puis même une partie du peuple, qui voyait dans Napoléon une sorte quand même de héros issu de la Révolution française, qui avait donné une sorte d'identité majeure à la France, qui était très populaire quand même dans tous ses descendants, ces gens qui avaient fait les campagnes, même s'il y avait plein de morts, il y avait une sorte de lyrisme dans cette espèce d'épopée napoléonienne. La figure de Napoléon avait cette capacité, on va dire, de synthèse. C'est presque une figure éclectique. On parle encore maintenant de bonapartisme quand on voit des gouvernants qui essayent justement de rassembler des forces antagoniques. Napoléon lui-même, on sait très bien qu'il avait donné des gages au christianisme en se faisant sacrer dans Notre-Dame, alors qu'il ne croyait pas plus qu'autre chose. Et vous aviez donc cette idée, et en même temps, il était très proche de milieux athées, francs-maçons, etc. Mais vous aviez cette idée que inventer une synthèse possible pour le pouvoir dans laquelle la population et le peuple pourraient se retrouver. Les communards ne s'y sont pas trompés, ils veulent abattre la colonne Vendôme. Et ils vont souvent attaquer aussi des monuments qui sont un peu le symbole de ce bonapartisme, comme s'ils avaient été trompés. C'est pendant la Commune de Paris que s'invente justement un communisme anarchiste, hein, etc. C'est quasiment la première chose. Et avec, y compris, les violences que l'on sait partout. Alors, si vous voulez, on voit bien, alors j'ai fait ce petit épisode rapide sur la Commune de Paris, on sait aussi que ça se termine dans le sang, la semaine sanglante, des milliers de morts traqués, et certains ensuite déportés dans les îles, dans des forts, etc. Et puis donc une grande violence. Et par la suite, effectivement, une pacification, hélas, parce qu'effectivement, ça a cassé, si vous voulez, c'est la dernière grande révolte populaire. Il faut attendre presque le 1er mai 1915, je crois, pour qu'il y ait des grosses manifestations encore dans Paris, puis 36, etc. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une violence faite contre le peuple parisien qui n'est pas que symbolique. Alors, cette double nature et complexité de Paris et des grandes capitales se voit aussi dans l'architecture. Autour, jusqu'à présent, on a vu les gares, on a vu l'opéra et par exemple le commerce. Là, je vous présente deux documents très opposés qui sont intéressants. Vous avez les Halles Baltar, premier plan, en haut. Hein, attendez, je vais voir, c'est mieux quand même. Les Halles Baltar, architecture métallique, puisque ce sont là, ce sont malgré tout, là, cette fois-ci, on va voir l'architecture, mais. Pour les Halles ont toujours été quand même au cœur des villes avec des architectures lisibles, hein, que ce soit des Halles en bois, et toujours c'est là la fonction prime, c'est-à-dire il faut pouvoir rentrer partout, il faut pouvoir accéder dans tous les lieux, etc. Donc les pavillons décrits encore par Zola, évidemment dans le ventre de Paris. Donc ça, c'est on va dire la fonction d'approvisionnement, le ventre de Paris. En dessous, vous avez, alors là, c'est presque le temple de la consommation, c'est à Londres, c'est Harrods. C'est quasiment la même époque que c'est conçu et pensé. Parce que d'un côté, il faut venir au Léal, il y a un côté quand même populaire, en métal, etc. Et puis vous avez les grands magasins qui vont s'inventer, qui vont être des temples, là aussi, complexes de séduction. Parce que ça va être aussi des temples du luxe, mais aussi des grands lieux populaires, dans lesquels il y a des gens qui vont travailler. Beaucoup de femmes vont pouvoir travailler là, pas travailler au Léal, mais, alors là, bonheur des dames, encore une zone bien vue, hein, avec aussi peut-être une. On monte dans l'ascenseur social, etc. Mais on voit bien qu'y compris l'architecture va être très différente. Sur les Halles, on est vraiment dans le métal, hein, très clair, légèrement ouvragé, arrondi, pour donner des sortes de gages à une certaine esthétique, avec la coupole ici de la bourse du commerce. Et puis vous avez, c'est ça, et puis là, à Rhodes, vous avez quelque chose qui évoque effectivement les temps où les bâtiments qu'on a pu voir précédemment, dans le cours précédent. Alors voilà d'autres visions des Halles et de la Rhodes, avec presque des fonctions parallèles et complémentaires. Alors, nous sommes près de la même époque, c'est qu'on est à la fin du 19e siècle, et puis ça va se continuer, etc. Alors, les grands magasins, c'est là où on revient à l'Opéra de Paris, les grands magasins ont une fonction complexe. D'abord, c'est quand même une modernité évidente, comme les gares, hein, c'est un rapport différent à la consommation, à l'industrie qui commence à se faire, aux manufactures, à les trains qui ont ces fonctions de transporter des gens, mais y compris des marchandises, hein, y compris les halles, etc. Donc vous avez quelque chose qui est beaucoup plus fort, on va dire, que la bourgeoisie, on va dire, traditionnelle. La bourgeoisie, elle est idéologiquement traditionnelle, mais très audacieuse techniquement et économiquement. Ils n'ont pas peur, en même temps, de se lancer dans des grands projets. Hein. Et vous avez donc cette idée qu'on va trouver de façon un petit peu synthétique dans des bâtiments qui vont finir par se ressembler. Hein. Vous avez à droite la coupole de l'Opéra avec les loges, et vous avez à gauche la coupole de la Fayette, avec des étages qui sont construits quasiment comme des loges. C'est-à-dire que on va se voir acheter, on va se voir consommer, on est en représentation dans une sorte de temple effectivement moderne de la consommation de façon très très claire. Et d'ailleurs, on verra que les grands magasins sont proches de l'opéra. D'ailleurs, ici, le quartier des grands magasins, vous avez l'opéra ici, ça spoil à chaque fois, vous avez l'opéra ici, vous avez les grands magasins, je crois que c'est le printemps et les galeries de la Fayette ici. On voit ici la Madeleine. Non, c'est pas la Madeleine, c'est la Madeleine. Et
la Trinité.
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ici. Et là, vous voyez effectivement l'opéra, hein, toujours ici, avec et les grands magasins qui sont là. Donc c'est vraiment un quartier cette fois-ci. Les Halles sont un peu à côté. Il ne faut pas oublier que le Marais, le premier arrondissement, troisième arrondissement, est un quartier très populaire et très insalubre. Dans les Halles, c'était un quartier qui était déjà populaire et insalubre. Donc, vous avez, il y a cette idée quand même de partager le côté des grands magasins et de l'opéra. C'est au contraire un quartier près de la place Vendôme, près du Palais Royal, près des Tuileries, etc., qu'il s'agit de reconstruire. Parce que Paris reste une ville très populaire, mais dans laquelle il faut que les nouvelles classes aient leur quartier, aient leur logement, aient leur bâtiment, aient leur rituel, aient leurs loisirs, etc. Et donc, ça se fréquente, ça se frôle, ça se touche, c'est des univers différents, y compris dans les immeubles haussmanniens. Donc on n'est pas encore dans un Paris entièrement embourgeoisé comme maintenant. Hein. Vous avez y compris, même on sait, dans les immeubles aussi, vous avez des étages qui sont plus ou moins prestigieux. Donc on est quand même dans cette idée-là. Alors regardez non seulement la coupole, mais y compris dans les grands escaliers. L'escalier de l'Opéra et l'escalier, je ne sais plus si c'est Lafayette ou le Printemps, hein, mais qui sont quasiment les mêmes. Alors, un en métal, l'autre en marbre, avec toujours ce jeu de parallèle, hein, de l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, l'Opéra se voit des terrasses, des Printemps et de Lafayette. Hein. Donc, si vous voulez, il y a cette idée que c'est un univers qui est parfaitement cohérent. Les grands magasins, d'ailleurs, par contre, comme l'opéra, gardent cette espèce de style qui est d'habiller les structures métalliques avec un voile de pierre. Ce qui va caractériser, d'ailleurs, le printemps, comme les galeries Lafayette, etc., c'est de garder le rythme, en gros, des étages des immeubles haussmanniens. Donc, il y a une continuité entre les grands magasins, on ne voit pas la structure métallique, on la devine par endroits, dans certains étages ici métalliques, puis on la devinera de plus en plus. Alors, ce phénomène n'est pas propre à Paris, on l'a vu avec Rhodes, on va le voir à Berlin, on va le voir dans toutes les grandes villes, et on le voit évidemment dans beaucoup de villes françaises, j'ai trouvé quelques Toulouse, donc Bordeaux, voilà. Avec à chaque fois, y compris, vous avez vu, des choses qui sont typique de l'éclectisme, c'est les colonnades, les sculptures, les coupoles en angle, y compris la mise en scène en perspective avec cette espèce de monumentalisation de ce temple du commerce et de la consommation, hein, puisque évidemment, derrière ça, il y a la consommation de luxe, mais il y a aussi cette idée qu'en consommant, bah, on existe. On existe, hein, donc c'est assez nouveau aussi, cette idée-là, hein, puisque le marché du commerce, etc. Alors d'ailleurs, regardez, on Narbonne, Angers, on est toujours alors des variations intéressantes, hein, avec toujours ces signes qui sont typiques, qu'on appelle l'anglectisme, coupole, colonnade, arcade, des citations effectivement gréco-romaines, des sculptures aussi de ce type-là, des volumes qui sont bien nouveaux aussi, mais presque toujours aussi avec une structure, un habillage de pierre, très proche de celui des gares. Alors, voilà les structures intérieures qui sont quand même assez remarquables. Là, comme pour les gares, mais c'est peut-être dans les grands magasins, dans les constructions, on va dire, d'ingénieurs, que là, quand même, le génie des ingénieurs est à libre cours. Ils n'avaient pas de modèle antérieur quasiment. Ils ont un nouveau matériau, il y a des nouvelles fonctions. C'est des espaces qui se libèrent de façon assez incroyable. Donc, vous avez un jeu aussi, hein, une expérimentation remarquable dans ces magasins, presque encore plus que l'opéra, où il y avait quand même là, une grande tradition à respecter. Donc, les grands magasins dégagent des espaces prodigieux. Et, par exemple, ça se voit aussi dans les coupoles. Les coupoles du printemps, et ça c'est le printemps, je crois. Qui vont reprendre même aussi le vitrail. Hein, le vitrail qu'on verra aussi dans Art Déco, etc. Donc, vous avez des techniques qui rappellent la tradition dans les façades des architectures presque religieuses ou des palais. Et puis, à l'intérieur, vous avez donc une modernité dans le métal. Mais le métal permet aussi de faire d'insérer les vitraux, et donc un petit clin d'œil aussi à l'architecture religieuse. Ce sont véritablement de nouveaux temples contemporains qui sont en train de s'inventer, et en même temps, l'expérimentation technologique est assez remarquable. Et voilà, hein, aussi les Printemps et la Fayette, qui sont la concurrence, la rivalité aussi, vous avez tous ces éléments-là, et puis, rappelez-vous, le système des loges, etc. Alors, les incendies, ça on l'a vu, ça fait partie aussi des grandes histoires parisiennes, ces grands incendies, celui du printemps 1910, dont on a trouvé des photos, hein, et qui ensuite sera tout de même reconstruit. Et là, vous avez le Grand Bazar en 1906, mais qui aussi a été détruit, et là, il est intéressant avec les rues de Rennes, parce que vous voyez le métal arriver en façade. Le métal arrive en façade, c'est-à-dire que le métal n'est plus caché dans la rue, hein, le métal peut devenir un élément presque lisible, décoratif, voilà, et qui est assumé. Alors là, il y a un truc sur la Tour Eiffel actuellement. La Tour Eiffel, c'est un enjeu, effectivement, c'est-à-dire que progressivement, on va voir le métal apparaître comme un élément architectural acceptable et qui peut être considéré comme esthétique. On l'a avec le Grand Palais, on va le voir avec la Tour Eiffel, évidemment. Et on va le voir sortir de sa cache, si vous voulez, de son vêtement de pierre. Et ça aura une importance cruciale dans l'architecture, parce qu'ensuite, alors, le métal aura une vie, on va dire, esthétique, comme architecturale, relativement courte, puisqu'il sera très vite remplacé par le béton. Mais le béton va être aussi soumis aux mêmes critiques, c'est que ça va dans un matériau d'ingénieur, mais très vite, il va être réhabilité, il va pouvoir avoir ses lettres de noblesse avec des gens comme Perret, Le Corbusier, etc. Mais tout ça, c'est très rapide, en fait. C'est une question de quelques dizaines d'années. Hein. Du coup, si vous voulez, on accepte le métal, et à peine le métal est accepté, que très vite, le béton est plus intéressant, parce qu'il permet aussi de faire des façades. Hein. Il est plus malléable que le métal. Donc, si vous voulez, il y a des enjeux intéressants. Ce qui rend maintenant les architectures métalliques d'autant plus intéressantes, c'est que justement, elles n'ont pas eu beaucoup de suite. Donc voilà, mais le métal, rappelez-vous, c'est le cœur de l'opéra Garni, le cœur de la coupole, et même des cintres, etc., c'est le métal. Alors dans le côté, puisque autour de l'opéra Garni, j'apporte l'éclectisme. L'éclectisme, c'est cette manière de s'inventer des nouveaux mythes, des nouveaux lieux, des nouveaux styles, des nouveaux matériaux, une nouvelle société dans laquelle qui est constituée de forces très complexes, parfois antinomiques, ça passe aussi par des violences, des révolutions, du sang, des conquêtes de territoire, Alors, dans la volonté de trouver des sortes d'unités, il y a une figure, par exemple, c'est Vercingétorix et les Gaulois. Jusqu'à Napoléon III, on n'a jamais entendu parler des Gaulois. C'est Napoléon III avec les fouilles du XIXe siècle sur le passé, etc. Et puis, vous avez cette idée que Vercingétorix, c'est une figure aussi qui permet de... qui est même éclectique et ambiguë, qui permet de rassembler à la fois le côté populaire, c'est un peuple un peu oublié et caché, le côté un peu résistant, rebelle, c'est en même temps un chef, donc en même temps c'est un chef de la nation, et en même temps il est perdant. Donc, et or, on est en plein aussi dans la guerre 70 qui a été perdue, donc si vous voulez, vous avez cette idée aussi qu'on peut être fier, rebelle, populaire, puissant, etc., et en même temps être un perdant magnifique, etc. Et puis vous avez aussi une figure mâle, un peu presque caricaturale, on va le retrouver chez Vercingétorix et y compris sur Brennus. Vous avez aussi l'idée de trouver un modèle qui soit nouveau, parce que tous les modèles religieux étaient marqués quand même par l'Ancien Régime. La religion essaie de s'inventer une nouvelle manière d'être, mais le style Renaissance aussi et le style gréco-romain étaient associés aussi, on va dire, au passé. Là, vous avez l'idée d'inventer un passé national, français, qui puisse un peu plaire à tout le monde. Donc, que ce soit les fouilles, que ce soit les sculptures, et l'enjeu politique autour de Vercingétorix sera important. Celui de Brennus, aussi, à l'hôtel de l'île de Sens, donc capitale des Sénons, qui auraient été censés attaquer Rome, etc. Alors, j'ai lu récemment un bouquin sur Vercingétorix. Pour certains nationalistes français, la nouvelle Rome, c'était l'Allemagne, donc, si vous voulez, qui voulait tout conquérir, et donc les résistances à Rome, c'était un peu considéré aussi comme une résistance à l'Allemagne, qui ensuite sera l'ennemi toujours, etc. Donc, que de figure nationale, mâle et guerrière, jusqu'à une caricature, la moustache, le coq, l'épée, la... Et là, vous avez qui trône, il se trouve que je ne connaissais pas, c'est juste, ça date de ce week-end, je suis allé à Sens. Et je vois sur l'hôtel de ville, typique justement de cette architecture éclectique, je vois trôner en haut cette statue en or, mais l'hôtel, c'est l'un de Brennus. Et si vous voulez, Brennus est montré la peinture académique, Brennus recevant sa part de butin, donc il y a de l'or et il y a des femmes esclaves. Et puis Brennus, ça va arriver. Vraiment aussi dans une affirmation d'un pouvoir masculiniste, caricatural, etc. Donc là encore, on est dans l'un des inventions éclectiques typiques, y compris du style, parce que Brennus ne va pas le faire à la romaine, ni à la grecque, donc il faut aussi inventer un modèle. Et les mairies, d'ailleurs, si on regarde, mais là, il faudrait faire presque un chantier entier. Si on regardait toutes les mairies de cette époque-là, beaucoup se ressemblent. Beaucoup se ressemblent, et on va voir aussi, parce que c'est le pouvoir municipal, c'est le pouvoir bourgeois au sens strict, des villes qu'il faut inventer, qui est à la fois une sorte de palais populaire, mais en même temps l'affirmation, effectivement, de mise en ordre et de la contrôle de la cité, c'est très très clair, et donc on invente toutes ces idées-là. Alors, il y a une autre figure, évidemment, qui est très importante, c'est Jeanne. Jeanne d'Arc, elle aussi, qui est ambiguë, parce qu'elle est revendiquée par l'Église, mais y compris, elle se fait dérouler par un évêque, et par les Anglais, donc elle est aussi ambiguë. Elle a un côté populaire, et en même temps, avec cette aventurière un peu dingue, illuminée, puis en même temps prodigieuse, quoi, de résistance, d'audace, c'est une belle figure. Mais là, elle est utilisée effectivement de façon encore éclectique, comme si elle pouvait rassembler effectivement des émotions et des références différentes, avec toujours cette idée de résistance et en même temps battue. Donc, on peut être glorieux, même dans la défaite, parce que sur le long terme, on peut être gagné, etc., etc. Alors, ce qui est assez drôle, et là, je vous assure que ce n'est pas fait exprès, je cherche les photos de Jeanne d'Arc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve Jeanne d'Arc à Saint-Augustin, devant peut-être l'église, une des églises les plus éclectiques, justement, que j'ai rencontrées au mois de mai. On la trouve aussi à Orléans, devant les grands magasins, entre les deux grands magasins, etc. Vous voyez qu'il y a vraiment une sorte de cohérence entre... Et à Chinon, alors là, le cheval est totalement chier. Alors, là aussi, on pourrait faire une étude sur toutes les sculptures de Jeanne d'Arc, ou de Vercingétorix. Mais vous voyez qu'il y a une cohérence assez intéressante. Alors, sur Jeanne d'Arc et la religion, justement, et puis cette espèce de truc. C'est la construction du Sacré-Cœur, la basilique la plus éclectique qui soit, et qui se fait là où il y avait les canons de la commune, là où il y a la lutte rouge, la lutte Montmartre, etc., où il s'agit effectivement là d'aller, y compris en périphérie, reconquérir le territoire de façon symbolique, qu'il soit vu cette fois-ci de partout, avec le Sacré-Cœur, construit alors en 1890, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça
Alors,
ça a gueule quelque part. Là, c'est la construction. Là, je crois que quelqu'un s'est amusé à coller une photo contemporaine avec une photo de l'époque. On va coloriser. Mais c'est assez mouvant. Et on voit un peu les espèces de terre-plein sur lesquels il y avait les canons de la commune. En fait, disant cette site parisien qui est peut-être celui qui a résisté le plus longtemps et qui était un des plus populaires. Et qui était stratégique, et qui était aussi presque tourné vers le nord et l'est. Là, on est vraiment, avant la séparation de l'Église et de l'État, vous avez aussi ce côté, la religion utilisée comme, y compris un moyen de contrôle. Vous avez vu avec les Saint-Sulpiciens, depuis Charles X jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État, presque pendant un siècle, la religion catholique est utilisée systématiquement. Sans beaucoup de réactions critiques de la part des religieux, qui sont bien contents qu'on leur donne autant de pouvoir, on leur donne les écoles, on leur donne la compétition, on leur donne, ils ont beaucoup d'argent, on leur donne des terrains, on leur donne un pouvoir politique énorme. Par contre, à certaines congrégations vont être valorisées et pas d'autres. Donc, si vous voulez, voilà un petit peu l'idée. Alors, j'ai terminé autour de. Éclectisme de Garnier, je voulais conclure, en fait, normalement c'est juste la conclusion de Garnier, mais j'ai un peu étendu pour faire une transition un peu plus longue. Alors, derrière ça, en fait, j'espère qu'on peut voir les contradictions très riches qu'il y a au XIXe siècle, notamment à Paris, en France, et qui vont générer justement un foisonnement de pratiques artistiques qu'on va voir justement, on a vu déjà avec Courbet. Tout de suite, là, je vais commencer avec Corot, justement, et puis on va voir effectivement avec les figures impressionnistes, etc., cette espèce de marginalité qui est typique de ce moment de l'histoire. Les peintres académiques que je vous ai présentés précédemment, je ne vais pas le refaire, et voilà. Je vais arriver avec Corot. Vous avez peut-être des questions là-dessus, peut-être avant que je passe sur Corot,
Il y a une belle construction à Paris, c'est Notre-Dame du Travail, qui est en architecture métallique, mais alors horrible de l'extérieur, mais magnifique de l'intérieur.
Ah, mais je ne connais pas celle-là.
C'est magnifique, à côté de la place de. Quartier Beaufils, dans le 15e.
Ah, d'accord, Notre-Dame
du Travail. 14e. Oh, c'est magnifique. Enfin, l'intérieur est magnifique.
Ah, d'accord.
L'extérieur horrible.
Ah bon, ben faut y aller.
Mais c'est métal.
C'est Eiffel qui l'a fait.
Ah d'accord.
Oui, ils ont récupéré des choses. Des expositions.
La de Castiglione.
La
nouvelle place de Castiglione.
Oui, derrière.
Et ben ça, c'est.
Très intéressant.
Alors, évidemment.
Près de la Marne, il y a aussi. Olivier, près de la Marne.
Oui.
Il y a aussi, là où est maintenant la fondation Nestlé. Qui était une chocolaterie extraordinaire.
Bien sûr, ça aussi, c'est toute cette architecture. L'architecture industrielle, les friches industrielles sont réhabilitées. Mais récemment, parce que par exemple, des belles architectures qui étaient justement liées, y compris au mouvement syndical, donc des bourses du travail à Bruxelles, la bourse du travail qui avait été conçue par Horta a été entièrement fondue et démontée. Horta, c'est donc un des grands constructeurs en métal de la fin de la Belgique. Effectivement, beaucoup de bâtiments en métal, soit des architectures du monde du travail, des syndicats, soit des usines qui, en fait, étaient libres parce qu'elles se construisaient sans modèle. Donc là aussi, c'est ce que le Corbusier dira d'ailleurs plus tard. Il dira l'invention, elle se retrouve du côté des constructions, des usines, des paquebots, des monuments des ingénieurs. Et parce que les ingénieurs sont plus libres. Et aussi, il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans cette architecture, on va dire, qui est liée à la fonction, c'est qu'ils sont obligés, là, ils ont des fonctions très concrètes. Vous faites les halles. Vous faites un grand magasin, c'est que vous avez des contraintes spatiales qui sont extrêmes. La l'accueil du monde, la circulation, les stocks, etc. Même l'opéra, c'est très compliqué. Donc, si vous voulez, vous avez des contraintes qui sont beaucoup plus. Une église, ben, la nef, un palais, on s'en fout. Le château, il fait ce qu'il veut. Là, dans cette architecture publique avec des fonctions très précises, les contraintes, le programme architectural est beaucoup plus compliqué à respecter. Donc, ce qui fait que l'architecture, elle est obligée d'être utile. Elle ne peut pas se contenter d'être juste délirante. Elle est obligée d'être utile, et ce côté un peu utilitaire va se lire souvent dans les plans, dans l'économie aussi. Vous avez cette idée de construire, on est au 19e siècle, il ne s'agit pas non plus de gaspiller complètement, donc vous avez un terrain qui est d'économie, ce que plus tard Le Corbusier va systématiser, l'économie, le standard, la fonctionnalité, la lisibilité, etc. Le fait de ne pas mentir. On verra ça avec le Misandaro et le Barros, puisque c'est ça. Mais c'est vrai que toute l'architecture industrielle, bah, l'usine, il faut bien que ça fonctionne. Hein, donc, il faut du monde, il ne faut pas que ça craque, que ça souffre à Rouen. Avant, ça va être costaud. Juste là, je vous montre. Parce que c'est ce matin que j'ai récupéré ça. Donc, je dis, c'est du tout frais. Ça, c'est des sculptures de Daumier, toujours, mais qui sont en bronze, qui ont été faites en bronze à partir de ces modèles en plaque. Ils n'avaient pas tous peints, en terre plutôt. Ça, c'était le malicieux, le borné, le fa, le gros gras satisfait, scrupuleux, triste jusqu'à la mort, l'ironiste, le timide, le hargneux, le subtil, le stupide, le méprisant, le gourmet, le scrupuleux, ça j'ai vu, le fourbe et rusé, le niais, pardon, la tête plate, le vieux niais encore, cette espèce d'affaire. Par contre, ce qui est dit sur lui, c'est qu'il aurait fait ça de mémoire. Il aurait fait ça de mémoire, puisqu'on n'a trouvé aucune trace de croquis de ces personnages. Donc, si vous voulez, c'est assez étonnant. Donc voilà, alors là, on était en pleine ville. Et c'est un petit peu ça qui fait la transition par rapport au sujet suivant, que j'ai appelé ça les chemins de Corot. Voici mon truc. Ah ben voilà, déroulé Corot. Déroulé Corot. Les chemins de Corot. Et, c'était 13h28, ça. Puisque l'idée c'était de faire Corot, puis en regardant Corot, je me suis dit, assez étrange, parce que, enfin, étrange, il y avait deux types d'espaces représentés, il y avait des chemins et puis il y avait des vues, qui sont des attitudes, on va dire, différentes, complémentaires, on chemine puis on s'arrête, ou on regarde en route, etc. Donc vous avez quelque chose qui est intéressant, mais cette idée du chemin, notamment chez Corot, c'est l'idée de s'éloigner, d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est une attitude qui est assez... Alors, vous aviez toujours les voyages d'artistes, pour voyager, on avait déjà vu l'année dernière, les carnets de croquis, etc. D'ailleurs, Corot va faire des carnets de croquis assez hallucinants. Je crois que j'en ai ici. J'ai tout récupéré, mais je ne l'ai pas mis ici. Déroulé Corot, cours de peinture, ici. Voilà, ces carnets de croquis, alors là, je ne demande pas tout, parce que je fouille en vitesse. Hein, ça, c'est des petits carnets, effectivement. Alors ça, c'était le voyage en Italie où le carnet de croquis, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, mais souvent, c'était ensuite pour faire des études. L'idée, on allait en Italie où on allait voir les grands classiques, on ramenait des études et on refaisait une peinture d'atelier. Corot, ça va être quelque chose de différent, justement. C'est en ce sens-là que c'est intéressant. Alors, les carnets de Corot sont remarquables parce qu'on voit bien qu'ils sont assez vite faits. Il saisit des masses, hein. Il est capable de s'arrêter sur certains détails. Et là, vous avez le carnet, l'objet carnet qui est dans la poche, c'est vite fait, il fait une halte, et puis il ne faut pas interrompre la marche trop longtemps sinon on n'avance pas, etc. Vous avez une sorte de vision rapide, extrêmement légère, très très libre. Et là, vous avez effectivement avec Corot quelqu'un qui s'en va, il va dans la campagne. Alors, vous imaginez, on a vu le Paris, c'est un peu une sorte de Paris pesant, tendu, lourd, pollué, violent, avec des enjeux qui sont majeurs, des choses qui sont... Or, vous avez des figures qui vont, vous voulez respirer, vouloir sortir. Certains vont prendre le train pour aller, et d'autres vont aller à pied, évidemment, comme par exemple Corot. Donc cette idée de s'aérer un petit peu, de changer d'air, de retrouver une nature qui était considérée comme exclusivement la matière première, vous avez donc un regard nouveau sur le chemin, le voyage et le paysage, que Corot va réinventer progressivement, au lieu d'être uniquement une sorte de voyage initiatique pour aller dans les lieux qui seraient les lieux de la source de l'art, l'Italie, Rome, les grands monuments, l'art classique, eh bien vous avez quelqu'un qui va redécouvrir un territoire beaucoup plus simple, hein, tout, on ira quand même en Italie, mais pas de la même manière, si vous voulez. Alors, je reviens, pourquoi je suis là, Corot, c'est la peste. Déroulé Corot, ici. Alors, cheminer, effectivement, c'est quelque chose qui est une attitude très différente. Alors, diaporama, ça sera plus beau. Alors, on va trouver une multitude de peintures de Corot qui sont effectivement, vous avez un premier plan, avec un chemin qui s'ouvre et qui s'éloigne. Souvent, on ne sait pas très bien où il va. Et vous avez ici comme une sorte de manifestation ben, de la solitude, du désir, du calme, d'aller au loin, là on voit des lointains, c'est que quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter, une sorte de grande paix, avec très souvent, on va voir des paysages et des lumières qui sont très douces. Hein. Très peu d'éléments, on va dire, climatiques majeurs, il y a un peu d'hiver, il y a peu de tempêtes, il n'y a pas beaucoup de pluie, on est dans cette idée-là. Et puis toujours, on sent le désir de Corot, et en même temps, on s'imagine très bien le sud. Vous avez aussi une sorte d'envie, hein, quand on regarde les petits Corot, on se dit que ça nous ferait du bien aussi. Donc c'est presque une sorte de rêve. Et là, on va vers Volterra. Volterra, c'est une
Toscane.
En Toscane, une superbe ville médiévale, ici d'à côté, dans lequel il y a une des belles peintures du monde, et les cités étrusques, etc. Mais à Volterra, ce qui va plutôt l'intéresser, c'est presque le chemin pour y aller que le but. Alors là, vous avez maintenant, on sait, l'attitude un peu bouddhiste, etc., l'idée que le chemin est le plus important, etc. Donc, et puis la tranquillité, la solitude. Loin des villes, loin, etc. Et une nature ici qui n'est pas une nature de campagne, qu'on ne va pas exploiter. C'est pas, cette idée. Et puis, il n'y a pas d'architecture remarquable a priori. Alors, ces chemins-là vont le mener quand même à Rome. Là, on le voit arriver à Rome. Ça va être encore ici les arcs de Titus et je ne sais plus lesquels, avec cette belle lumière. Mais regardez, l'arc est représenté un peu au loin. C'est plus l'idée des promenades dans un Rome. Alors, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de voitures. On est tranquille. Juste un détail. Hein. Rome en 1840, à peu près, quand il y va, 1830-40, etc., était tombé presque à quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'habitants. La Rome antique, c'était 1 500 000. Oui. La Rome baroque, elle était importante au niveau des monuments, mais c'était surtout des palais, des églises, etc. C'était la Rome chrétienne, mais ce n'était pas du tout une Rome importante économiquement. Et la Rome du 19e siècle, elle pèse presque rien comparée. Turin, Naples, Milan, même Venise, qui était beaucoup plus importante. Venise avait presque 250 000 habitants à cette époque, enfin, fin du 19e. Non, il y en a 80 000, plus des gros paquebots. et Rome, donc, il y a ce côté aussi du passé, une sorte de ressourcement, hein, mais avec la grande solitude, et y compris... Peut-être un côté de réflexion, parce qu'il voit une civilisation industrielle qui est en train de se créer, qui s'assimile aussi à l'Empire. Hein. Il faut voir que Napoléon s'assimile à Jules César, hein, un soldat républicain qui devient empereur pour sauver la patrie, etc., qui se lance dans des grandes conquêtes et qui essaie d'établir, de conquérir l'Europe. C'est Napoléon entièrement inspiré d'une Rome glorieuse. Là, vous avez la redécouverte, on va dire, d'un contrepoint. C'est justement l'idée presque poétique que ben, les grandes civilisations peuvent s'éteindre et que peut-être ce qui reste, c'est justement la nature, la solitude, la lumière, etc. Donc, chez Corot, alors, on va le voir dans presque toutes ses peintures. Alors, la peinture de Corot aussi... Ah, j'avoue, ça spoil le bon truc. Ah, mais pourquoi... Ah oui, c'est ce que j'ai oublié. Pont-Narni, 1826, etc. Alors, ce qui va caractériser assez vite... Enfin, assez vite, quoi. C'est assez difficile de faire une chronologie, parce que justement, il va peindre pendant très longtemps, hein, il va peindre pendant presque plus de 40 ans, avec peu de changements. Donc, ce qui va être un peu la caractéristique de ces peintures, c'est une peinture assez généreuse, avec posée, sans touche rapide. Hein. C'est une peinture assez épaisse, avec, comme dans ses dessins, une certaine vision synthétique, c'est qu'il est capable de faire des grandes lignes, comme il est capable de faire des grandes masses au premier temps, au premier plan, c'est presque des taches de peinture peu détaillées, une grande sensibilité plutôt à la lumière qu'au détail, c'est-à-dire que si vous regardez bien, par exemple, le pont ici, il est peint un petit peu comme le fera Daumier, c'est-à-dire à grand trait, on n'est pas dans le détail du dessin. Or, si vous voulez, ça c'est déjà une sorte d'innovation, parce que la tradition 1826-30, etc., c'est quand même un néoclassique, c'est de tout contrôler, de tout dessiner. Un des grands maîtres, c'est un, ce sont les néoclassiques, donc l'idée c'est la précision. Il faut contrôler, il faut décrire. Cette idée aussi de la quantité, je ne l'ai pas dit, au 19e siècle, vous avez l'idée du contrôle, mais tout est une question de quantité. Quantité d'argent, quantité de matière première, quantité de ceci, quantité de tout cela. Il s'agit de stocker, de contrôler, de garder. Donc, et aussi la notion de labeur et de travail. L'idéologie bourgeoise, on va dire, dominante au XIXe siècle, c'est que on a son pouvoir par le travail, la spéculation, par la maîtrise des flux de la quantité, mais y compris aussi par cette espèce de travail. Si on voit quelqu'un qui semble se relâcher un petit peu, c'est quelque chose que l'on ne comprend pas. Parce que tout à coup, ce n'est pas quantifiable, cette espèce d'inspiration, ce laisser aller, on dirait lâcher prise, dont Corot témoigne. Alors, Corot est un peintre qui sera relativement apprécié, hein, il aura quand même des commandes, etc. Je reviendrai peut-être un peu plus sur des éléments biographiques. Alors, les ponts et les chemins, à chaque fois on le voit, comme dans ici, toujours en Italie, alors ça c'est le Corot italien. Il va vers l'Italie, mais ce sont des ouvrages mineurs qui vont représenter les ponts cassés, les grands bâtiments, alors que, on va dire, c'est quasiment contemporain. Géricault et Delacroix allaient encore dans ce romantisme, voir la grande puissance romaine, les sculptures, les grands monuments, l'espèce de force et la puissance. Corot, c'est donc cette espèce d'artiste discret qui semble assez marginal, qui va sur le côté, sur les petits chemins, c'est pas les grandes routes, qui va voir les choses un peu plus ou moins en ruine, dans des lumières, dans des paysages parfois anonymes, comme on le voit ici. Et donc, on n'est pas du tout dans le romantisme, de ce point de vue-là, qui est pourtant une des... c'est quelque chose qui est porteur, on va dire, dans la culture citadine, française. Alors là, vous voyez, je n'ai pas inventé cette idée des chemins, avec une composition. Alors, de ce point de vue-là, Corot aussi est intéressant, ce sont des croquis qui sont faits sur place, ce ne sont pas des peintures conçues en atelier, même si parfois elles peuvent terminer en atelier. Certaines, comme celle de droite, est quasiment une sorte d'ébauche. Là, vous voyez bien. Et vous avez avec Corot quelque chose qui est intéressant dans sa pratique, c'est que certaines de ses peintures se rapprochent de l'ébauche. On a une sorte de transition entre l'ébauche et la peinture achevée.
S'il vous plaît.
Oui.
Je m'interroge sur la validité des ombres de l'autre côté. Les ombres. Et c'est dans la même direction de, par rapport au soleil.
Non, parce que là, il y a des arêtes. Là, on ne voit pas les arêtes, mais ce sont les ombres propres, si on regarde bien, et les ombres portées. Donc il y a,
ça correspond.
Et les arcades aussi de l'aqueduc sont. Je pense que c'est cohérent. Mais, parce que son idée est effectivement.
Face à face.
Couleur de la roche.
C'est pas l'invention. Oui, c'est la couleur de la roche.
Ouais.
Corot n'est pas dans l'invention du tout. Alors que toute la grande invention romantique, c'est l'invention. C'est le côté littéraire, ne pas avoir des ombres,
ça va être des veines,
les unes dans, en face des autres.
C'est la couleur de la roche.
Je pense que c'est la couleur de la roche.
C'est flou.
Il y a des
arêtes, ou des
creux de terre, oui. C'est vrai que c'est face à face, donc ça peut être.
Mais, l'œil est pitoyable. Alors, vous voyez ce que je dis au niveau de la touche, c'est que c'est quelqu'un qui libère sa touche aussi, mais il n'affirme pas aussi l'individualité. Son individualité est un peu comme en contrepoint. Tous les romantiques français, Géricault, Delacroix, puis les autres, Victor Hugo, Chateaubriand, c'est moi, Musset, tout ça, c'est. Corot, non, c'est voilà ce que je vois, une sorte de retrait, et puis il nous propose sa vision. Je ne l'impose pas. Ce sont des propositions qu'on fait de ses chemins, de ses cheminements, qui s'arrêter. Vous avez aussi de la pause, des gens qui s'arrêtent. On voit assez souvent chez lui de profiter du moment. On est vraiment quelqu'un qui invente sur place, sans théorie. Alors, Coran, c'est plutôt quelqu'un de théorie. Qui invente une façon de voir, de sentir, de profiter, qui est presque parfois un peu nonchalante, qui accepte de ne pas finir. Et qu'est-ce qu'on voit sur les chemins? Ce n'est pas des grandes routes, ce n'est pas des grands carrosses, ce sont des paysans, ce sont des femmes qui vont à l'auberge. Vous avez donc, là aussi, chez Coran, un monde qui est mis en scène, et aussi sans exotisme excessif. Là, vous avez sur ces chemins, je ne sais pas où c'est, par contre, c'est un peu bête. Là, vous avez des costumes italiens, mais ce n'est pas les beaux, les belles italiennes qu'on va pouvoir voir dans certaines peintures académiques. C'est très discret. Hein. Et on voit ici. Avec des chemins, en plus, qui sont rarement droits, sinueux, aussi, c'est-à-dire, alors que des voies romaines, il y en a, etc. Là encore, ce qui est beau, si vous regardez dans ces quatre ici, c'est que vous avez aussi regardé les bleus très différents. Les cieux, donc, un coloriste, on n'est pas dans le stéréotype, au contraire, il se laisse imprégner par la lumière et les ambiances. Hein, et d'un point de vue-là aussi, il n'impose rien, il le reçoit. Il faut que je voie là, il est là. 37. Alors, ici, toujours des l'Aquitaine. Et regardez, alors les jeux. Les jeux d'ombre, voilà. Là, il y en a énormément. Alors, ce sont en général des tableaux qui sont petits, parce que ce ne sont pas des grandes commandes. Donc, la plupart du temps, ce sont des tableaux assez petits. Je ne sais pas exactement le type de client qu'il peut avoir, souvent des amateurs, mais ce ne sont pas des commandes ni pour des palais, ni pour des églises, ni pour des grandes décorations de salles, de mairies, etc. Il y a un côté positif qui existe depuis, on va dire, l'avènement d'une bourgeoisie éclairée en France depuis le 18e siècle, hein, qu'on a le 18e, 19e siècle, si vous avez aussi quand même des gens cultivés, éclairés, qui ont des moyens et qui aussi peuvent être, font une clientèle pour une peinture de plus en plus variée. On avait vu ça en Hollande, dans les Pays-Bas, au 17e siècle, effectivement, cette espèce de bourgeoisie commerçante, industrieuse, éclairée, qui fait aussi toute cette espèce de clientèle possible pour des artistes qui n'ont pas uniquement besoin d'avoir des commandes officielles ni de l'Église, ni de l'État, ni de l'armée, etc. Donc vous avez une sorte de des niches comme ça qui se constituent, qui auraient typique de ce genre-là. Et on le voit. Alors, ce qui est assez net quand même, c'est que ces peintures sont de la nature de la fenêtre. Et ça, c'est quelque chose qui. Ça, j'en parlerai, puis j'en ai souvent parlé. La peinture se fait soit un mur, soit une fenêtre. Soit vous avez une trouée, puis vous regardez vers les lointains, avec la lumière. Donc on est un peu dans l'illusion, la restitution d'une profondeur, soit on est effectivement dans la surface à la présence tangible, plane. Chez les impressionnistes, ça serait un enjeu important. Avec Corot, là où ça devient aussi intéressant, c'est qu'il est dans la profondeur, dans le creux par la lumière, mais sa peinture bien épaisse, qui est très présente physiquement, eh bien, elle est manifestement une question de surface. Donc vous avez avec Corot quelqu'un qui intuitivement, c'est pas du tout théorisé, et il travaille, regardez dans la voile ici. Ah, la voile est presque une surface de peinture posée comme ça. Il joue pas sur l'effet d'illusion. Il joue pas sur l'illusion de la profondeur. Il restitue une profondeur par la lumière, et en même temps, eh bien, il accepte cette espèce de réalité de la peinture que c'est plat et que l'on voit des traces. Quasiment de peinture, on voit des touches. Alors évidemment, c'est posé, c'est assez lent, il n'y a rien d'excessif. Alors, là, on a vu le Corot, on va dire, italien, mais évidemment, il va... Alors, Marcus, on veut le voir à Marcus aussi plusieurs fois. Il ne va pas dans beaucoup à Marcus, à Ville-d'Avray, etc. Donc, et où qu'il soit, on va retrouver les mêmes principes de structure, cheminée aussi. Donc, on imagine, effectivement... Charrette, il prend le train, il va connaître le train, etc. Et alors là, on est dans un autre registre coloré, totalement. On est dans les verts, on n'est plus dans les ocres, dans les verts, dans les gris, etc., dans les noirs. C'est d'ailleurs une gamme de couleurs que reprendra Manet hein, vert, gris, noir, brun, hein, qui lui aussi affirmera la planéité. Donc vous avez là aussi quelque chose qui est typique, avec des ambiances tout aussi belles, avec toujours ces mêmes petits, comme si c'était un chemin continu qui mène de l'Italie jusqu'à l'île de France, etc. Et toujours le même type de personnage, alors là encore sur les petites peintures. Le chemin montant, si vous regardez bien, on est aussi dans une sorte d'ébauche. Hein, et à partir de ces récits, les représentations lumineuses, c'est d'une simplicité apparemment terrible. Le dessin est minimaliste. Mais alors, j'aimerais bien savoir faire ça. La justesse des tons, l'orientation des touches, la générosité. Et puis la présence physique de la peinture qui donne cette sensation aussi physique même des lieux et de la terre. Donc une grande discrétion hein, et une grande efficacité. Alors celui-ci est peut-être un des plus connus, hein, les maisons de Cabassu à Ville-d'Avray. Il est très intéressant justement avec cette plongée, comme ça, cette grande descente. Hein, les maisons, le lointain, la barrière, l'étang, et puis toujours là, des choses très simples. Il n'est pas dans le monumental. Les cieux, ce n'est pas des sommets couchants, comme on va voir chez Turner, hein, des effets telluriques, une sorte de dramatisation du paysage, comme on va trouver chez Cassandra et Friedrich, y compris même chez Delacroix, parfois, qui fait des paysages. Vous avez là, au contraire, une grande sérénité, mais qui se fait effectivement pas à pas, puis à pied. Alors là, les nuages deviennent aussi, c'est plus en Italie, hein, et les tons. Comme ici. Ça, c'est un très joli petit chemin, très court, avec quelques architectures aussi simples et populaires. Église à l'heure 1841, maison près d'Orléans. Alors, les dates, c'est très difficile, si vous voulez, de dater vraiment, de dire ça, c'était l'année, parce que c'est à peu près toujours le même style. On verra à Venise, dans certains endroits, il va faire des peintures plus détaillées, mais la plupart du temps, il y a cette espèce de touche qui rapproche du croquis. Si vous voulez, vous avez ici un artiste. Auparavant, c'est que les croquis en peinture étaient considérés comme préalables, des études et des recherches, mais on avait une pratique artistique totalement différente. Quand on passait en peinture, on finalisait, etc. On pourrait presque mettre en parallèle avec l'idée du métal et de la pierre. Le métal, c'est un peu le croquis brouillon, c'est la structure, et puis par-dessus, on avait un habillage noble, propre, etc. On allait finir, présenter la chose, habiller. La peinture, c'est aussi ce qui habillait, qui recouvrait on dit, une structure qui était donnée par le dessin. Le fait de laisser voir, quelque part, le travail, maintenant c'est devenu la mode, work in progress, etc., le travail en train de se faire, la forme qui est en train de s'inventer, c'est aussi quelque chose qui est nouveau, y compris sur la structure du paysage. Alors, des gens comme Fragonard, on l'avait déjà fait dans ses portraits, hein, on commençait à le voir Fragonard, mais Fragonard, c'est... 40 ans, 50 ans avant, hein, c'est pas énorme en fait. On oublie un petit peu que c'est. Il est quel âge ?
42,
bon, juste une autre peinture. Alors, les bords de rivière, parce qu'on peut dire aussi que les rivières sont intéressantes, parce que c'est un chemin aussi, un chemin de terre. La rivière, c'est un chemin qui circule, etc. Calme, posé, avec des rivages. Mâcon, Sainte-Adresse, etc., bord de mer. Alors là, c'est intéressant, on n'est plus dans les terres, on n'est pas dans l'ocre italien, on est dans des espèces de terres très sableuses, très très pâles, une harmonie colorée qui est nouvelle, et puis toujours, quelque chose qui est incroyable, c'est des paysages qui racontent rien. En plein 19e siècle, où c'est le roman, où c'est les histoires, où c'est des grandes idées, où c'est des grands thèmes, vous avez là aussi quelqu'un qui est vraiment à part, qui prend vraiment des chemins, au sens strict des chemins de traverse. Et par rapport à tout ce que je dis sur Paris, il faut imaginer hein, une espèce d'envers des choses qu'il représente. Là, on est en 1830. Donc, mais il est presque l'heure. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter Corot là, et on le reprendra la semaine prochaine. J'ai réussi à passer sur Corot alors qu'il n'y a rien à dire, parce que justement.
C'est à voir.
Donc, alors, autour de Corot, on verra d'autres artistes, évidemment. Et Fontainebleau, bien sûr. Mais peut-être que la prochaine fois, selon Mange pas, on aura le temps d'aborder Marianne Morse, qui est aussi une artiste évidemment intéressante.